le rendez-vous n'était pas des mieux choisis. Le nom de Courtrai résonnait comme celui d'une défaite. Or, il faut prendre garde en matière de guerre aux précédents. Les catastrophes se reproduisent généralement aux mêmes emplacements. Pour l'entretien de l'host formidable qu'il voulait rassembler, Louis X se trouvait naturellement en peine d'argent. Son conseil eut alors recours aux mêmes expédients qu'employait Marigny, et l'on se demanda dans l'opinion s'il avait été bien nécessaire de condamner à mort l'ancien recteur du royaume pour revenir aussi vite à ses méthodes en les appliquant plus mal. On affranchit tous les serfs du domaine qui pouvaient acheter leur liberté. On autorisa de nouvelles arrivées de juifs dans les villes royales, moyennant une taxe écrasante sur le droit de séjour et de commerce. On réduisit les privilèges des banquiers et marchands lombards, en même temps qu'on instituait une puis deux tailles supplémentaires sur toutes leurs transactions, ceci en dépit des belles assurances données par le comte de Valois à ses prêteurs. Aussitôt, les Lombards jugèrent le règne d'un œil beaucoup moins favorable. On voulut également imposer le clergé. Mais celui-ci, tirant argument de ce que le Saint-Siège était vacant et que nulle décision ne pouvait se prendre en l'absence d'un pape, refusa. Après de difficiles négociations, les évêques consentirent une aide à titre exceptionnel, mais seulement en contrepartie d'exonérations et de franchises qui se révélèrent finalement coûter plus au trésor que ne rapportaient les subsides obtenus. La levée de l'armée s'accomplit sans difficulté, et même dans un certain enthousiasme de la part des barons qui se plaisaient à l'idée de sortir leur cuirasse et d'aller courir l'aventure. Le peuple affichait moins d'allégresse.
N'est-ce point assez, disaient les commères, qu'on soit à demi-mort de famine, pour aller encore donner nos hommes et notre argent à la guerre du roi?
Mais on faisait miroiter aux soldats l'espoir du butin et des jours francs de pillage et de viol. Pour beaucoup d'hommes, l'ost offrait une échappée à la monotonie du labeur quotidien et au souci de se nourrir. Nul ne voulait se montrer lâche, et les sergents royaux savaient rappeler les manants au devoir en décorant de quelques pendus les arbres des routes. La plupart des ordonnances de Philippe le Bel relatives à l'organisation de l'armée demeuraient en vigueur, grâce à l'obstination du connétable, et continuaient de prouver leur efficacité. Tout homme valide, s'il était âgé de plus de 18 ans et de moins de 60, devait le service armé, sauf à se racheter par une contribution en argent ou à justifier d'un métier jugé indispensable. La formation de l'ost obéissait à une articulation essentiellement territoriale. Le chevalier et même l'écuyer, n'allaient jamais seuls en guerre. Ils étaient accompagnés de valets d'armes, de sommeliers, de gens à pied. Possesseurs de leurs chevaux, de leur armement et de celui de leurs hommes, ils devaient constituer leurs troupes avec les vassaux, sujets ou serfs de leur fief. L'octroi de la chevalerie correspondait à une nomination dans un grade, assorti d'obligations militaires fort précises. Le simple chevalier, une fois son monde équipé et rassemblé, rejoignait le chevalier de grade supérieur, généralement un chevalier à pennon, son suzerain immédiat. Les chevaliers à pennon ralliaient les chevaliers à bannière, ou bannerets, lesquels eux-mêmes étaient placés sous les ordres des chevaliers à double bannière, chefs des grandes unités tactiques, levés sur la juridiction de leur baronnie ou de leur comté. La bannière du comte de Poitiers, frère du roi, se présentait à elle seule comme un corps d'armée de proportions imposantes, puisqu'elle rassemblait à la fois les troupes du Poitou et celles du comté de Bourgogne. De plus, 10 bannerets y étaient administrativement rattachés, parmi lesquels le comte d'Évreux, Anceau de Joinville, fils du grand Joinville, et le connétable gaucher de Châtillon lui-même pour les troupes qui venaient de son comté de Porcien. Ce n'était certainement pas sans raison que Philippe le Bel avait confié à son second fils, avant même que celui-ci eût 22 ans, un commandement de telle importance. La bannière de Poitiers faisait équilibre, en quelque sorte, à la bannière de Valois, sous laquelle marchaient à la fois les recrues du Valois, de l'Anjou et du Maine. Une autre grande unité était, bien sûr, celle levée sur le domaine royal proprement dit. À cette dernière appartenait Robert d'Artois pour sa châtellenie de Conches-en-Ouche et pour son comté de Beaumont-le-Roger, toujours promis, jamais remis. Les villes n'étaient pas obligées à moindre contribution que les campagnes. Pour l'ost de Flandre, Paris eut à fournir 400 hommes de cheval et 2000 hommes de pied. Les soldes en seraient assurés par les bourgeois marchands de la cité de quinzaine en quinzaine. Les chevaux et chariots nécessaires au train furent réquisitionnés dans les monastères.